Nous sommes toujours dans cette série sur les psaumes. Dimanche passé, c'était Sylvain qui a traité le psaume 44 et aujourd'hui, il m'incombe de vous apporter une méditation sur le psaume 45. Alors, selon la coutume, quand je prêche sur les psaumes, je fais une petite révision sur le livre des psaumes. Alors, je vais poser quelques questions. Combien y a-t-il de psaumes? Levez la main, ceux qui savent. Bon, 150. Sur quelle période, sur combien d'années les psaumes ont-ils été écrits? 1000 ans, c'est bien, ça va. Qui a écrit le plus ancien des psaumes? Moïse, voilà. Combien y a-t-il de sous-ensembles dans le psautier, c'est-à-dire le recueil des psaumes? 5, voilà, c'est bien. Quel est le nom que l'on donne au dernier verset de chacun de ces 5 livres? Une doxologie. Et la doxologie qui termine le premier livre, au psaume 41, c'est « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Il y a 2 fois « Amen » pour terminer ce sous-ensemble de psaumes. Voilà, donc le psaume 45, que nous allons lire, s'intitule dans les traductions, second 21, « Les noces du roi ». Les noces du roi. On va célébrer des noces dans quelques semaines, mais là, c'est les noces du roi. Au chef de chœur, sur la mélodie de l'hélice, des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. C'est le verset 1 qui décrit le contexte de ce psaume. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Verset 6, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Verset 10, des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération, c'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Ce psaume est non seulement l'expression du cœur de son auteur, qui était un coréite, mais plus que ça, il est l'expression d'un bouillonnement, du bouillonnement de son cœur, nous dit le verset 2. Il faut que ça sorte, sinon il y aura une surpression et la pression sera trop forte et il y aura une explosion. Certains artistes s'exprimeraient par exemple au moyen d'un pinceau en produisant un magnifique tableau. Mais ici, notre artiste auteur s'exprime au moyen de sa plume. À l'époque, certainement un roseau. On peut aussi penser aux compositeurs de musique qui ont produit des œuvres admirables sur Christ en particulier. Ce magnifique psaume nous présente donc le mariage d'un roi. Sous certains aspects, il nous fait penser au livre du Cantique des Cantiques. Bon, mais le mariage d'un roi, mais lequel ? Le texte ne nous le dit pas. Les spécialistes ont évoqué différentes hypothèses, Salomon, Achab, mais ces hypothèses ne cadrent pas très bien toutes avec certains éléments du texte. Par exemple, certaines activités guerrières mentionnées au verset 4 et 6 semblent ne pas correspondre bien à Salomon. De même, les vertus du roi décrites au verset 5, 7 et 8, si vous suivez sur votre Bible, mais ça parle de la vérité, de la douceur, de la justice, etc. Eh bien, ces vertus ont du mal à s'accorder avec ce que l'on sait du roi Achab, surtout après son mariage avec Jézabel. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez relire dans 1 roi 16, à partir du verset 31, et vous serez édifiés. Mais pourquoi donc introduire un chant nuptial dans le recueil des psaumes ? Eh bien parce que les relations dans le mariage sont souvent utilisées dans la Bible pour illustrer la relation de l'alliance entre Dieu et son peuple, mais aussi dans le Nouveau Testament de la relation entre Christ et l'Église. L'Église épouse de Christ. De plus, les relations de mariage exprimées dans les psaumes, dans ce psaume, peuvent inspirer et nourrir nos propres relations au sein de nos mariages humains, mais aussi dans nos familles et aussi dans l'Église. Oui, qui donc est le roi dans ce psaume ? Vous l'avez certainement deviné et perçu dès le début. Le roi, au-delà d'un roi humain, c'est le Christ que l'on voit, que l'on sent, que l'on vit au travers de ce psaume. Donc nous allons un peu approfondir tout ce que je viens de dire pour nous en convaincre. Donc ce psaume se présente donc comme un chant pour un mariage royal. Le cadre y est, les vêtements superbes, ceux qui vont se marier prochainement, ben, si vous pouviez utiliser ces vêtements, vous seriez vraiment gâtés. Des vêtements d'or, etc., des bijoux, des cortèges éblouissants, des parfums, des cadeaux. C'est une description remarquable. C'est une fête grandiose et un observateur, poète, écrivain lance ses félicitations et ses vœux de succès pour les époux royaux dans ce psaume. Mais certains éléments du psaume peuvent nous étonner un petit peu et nous surprendre. Le premier élément de surprise, c'est que est-ce que le roi serait divinisé ? En effet, ce psaume ne s'adresse pas à Dieu, mais au roi. Le psalmiste parle au roi en disant « Tu es le plus beau, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours ». Puis une certaine ambiguïté s'installe et le vocabulaire décrivant ici le roi est utilisé ailleurs dans la Bible pour parler de Dieu. Alors au verset 7 et 8, on lit ceci, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le spectre de ton règne est un spectre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. » Ce « ô Dieu, ton Dieu » m'interpelle. Car deux interprétations sont possibles. Soit l'auteur parle à Dieu, soit il parle au roi. Ces expressions qui, à l'époque du psaume, s'appliquaient au roi humain, de la lignée de David, peuvent tout autant s'appliquer prophétiquement au roi messianique, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. C'est ce que l'on constate d'ailleurs, par exemple, au début de l'épître aux Hébreux. Si vous feuilletez votre Bible, vous trouverez chapitre 1, versets 5 à 9, où il est dit que c'est Dieu lui-même qui a caractérisé Jésus en lui disant « Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. On retrouve l'association entre Dieu et le roi. De plus, ce roi semble capter toute la louange pour lui. Et peut-être un peu moins pour l'épouse, on va en parler. Le deuxième élément d'étonnement, le roi serait-il aussi ardent que ça ? Est-il vraiment ardent, amoureux ? Il est question d'amour dans les termes très humains d'un désir qui semble très loin de l'amour don de soi, dont parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, où il dit « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Pourtant, ce qui fait l'admiration du psalmiste, ce sont deux qualités du roi qui sont attribuées également à Dieu. Il dit « Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. » Deux qualités de ce roi qui sont aussi des exemples pour nous. Ce sont des qualités qui sont nécessaires pour le développement d'un amour tendre, un amour amoureux. Hein, et il ne peut pas y avoir de tendresse sans justice et en présence de méchanceté. Mais le psaume ne parle pas vraiment de tendresse, etc., comme on peut voir par exemple dans le Cantique des Cantiques. Et un autre élément d'étonnement dans ce psaume, c'est que le roi peut apparaître comme un roi souverain, et même par rapport à son épouse. En effet, beaucoup d'impératifs résonnent comme des ordres adressés à sa femme. Que doit-elle faire, sa femme ? Elle doit oublier sa famille, verset 11. Verset 12, elle doit se prosterner devant le roi. Je ne sais pas si ma femme se prosternerait devant moi. Mais tous ces éléments nous permettent de classer sans ambiguïté ce psaume, donc dans la catégorie des psaumes messianiques qui appellent les croyants à se soumettre au roi Messie, à Jésus-Christ, donc autrement dit Jésus. Et j'aimerais, avant de poursuivre, revenir sur mon questionnement, donc sur cette question de la tendresse du roi vis-à-vis de son épouse. Dans notre psaume, en effet, il n'est pas explicitement question de tendresse, comme je l'ai dit, hein, du roi envers sa reine, mais il est plus question d'une relation d'un roi envers ses sujets, dont la reine, même si, donc aussi de la reine, même si elle est vêtue d'or. Et pour lever le doute, je veux partager avec vous quelques versets du livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 16 à 22, que je vais vous lire. C'est pourquoi je veux la séduire, donc sa femme, et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien que l'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, autrement dit l'amour, et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Dans ce passage, qui peut compléter notre psaume d'une certaine manière, eh bien, les relations entre le roi et son épouse sont reprécisées. La femme appelle dorénavant son mari « mon époux » et non plus « mon maître ». Et de plus, la bonté ou l'amour, la tendresse, la compassion sont rajoutés à la droiture et à la justice, qui étaient des vertus qui sont précisées dans le psaume 45. Mais on rajoute là, dans Osée, donc là, finalement, l'amour et la tendresse. Dieu veut aussi instaurer une alliance homme-femme, aujourd'hui, comme un vis-à-vis dans un vrai dialogue de respect mutuel et de tendresse. Au fond, c'est ce qui avait été instauré d'ailleurs au moment de la création, quand en Genèse, il nous est dit que les deux ne feront plus qu'un. Il n'y a pas la notion de maître et d'esclave. La reine dont il est question dans notre texte est donc prophétiquement pour nous, l'Église. C'est l'Église. Et l'on peut aussi, chacun individuellement, nous identifier à cette reine. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Comment vivons-nous en tant qu'Église notre relation de dépendance avec notre divin roi et notre sauveur, avec Jésus-Christ ? Acceptons-nous cette relation de dépendance à Jésus dans toutes nos réflexions, que ce soit au niveau personnel, au niveau de notre couple, pour ceux qui sont mariés ou qui vont se marier, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'Église. Et cela concerne de manière non hiérarchique, je vais donner une liste de points qui sont concernés, la justice. Il faut être juste dans le couple, il faut être juste dans l'Église, il faut être juste dans la société. La droiture, la bonté, par opposition à la méchanceté que déteste le roi au verset 8 de notre psaume. L'amour, dont nous parle Osée, le Cantique des Cantiques. La compassion, la fidélité, etc., etc. Et il y aurait bien des choses à méditer, on pourrait envisager une prédication sur chacun de ces points, mais voilà, il y a bien des choses sur chacun de ces points que je viens d'évoquer. Et il y a un autre aspect que je souhaiterais relever par rapport à cette relation que nous avons avec notre roi, c'est la joie. Tout à l'heure, on a chanté le dernier cantique qui parlait de la joie et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis en plus de ça, il y avait deux petites filles qui étaient dans ma travée, qui étaient juste à mes côtés, et je voyais qu'elles connaissaient ce cantique, elles sont, alors qu'il y en a une qui, j'imagine, ne sait peut-être pas encore lire, je ne sais pas, elles chantaient ce cantique sur la joie. Alors, au verset 8, le psalmiste mentionne la manière dont le roi a été désigné. Il dit que c'est par une onction avec une huile de joie. Une onction avec une huile de joie. De plus, dans le palais du roi, au verset 9, il nous est dit que les instruments à cordes réjouissent le roi, lui donnent de la joie. Et donc, ceux qui sont avec lui aussi sont réjouis. Et je ne parle pas non plus des parfums qui embaument les vêtements. Donc la joie doit naturellement accompagner et sous-tendre nos rapports avec le roi Jésus. Cela veut dire que nous ne devons jamais oublier que la perspective du royaume à venir, qui est un royaume joyeux. Cela peut nous aider lorsque nous traversons des épreuves, et nous sommes tous candidats aux épreuves dans notre vie, et ça nous arrive de ci, de là. Hein. Mais cette perspective du royaume de joie, eh bien, peut nous aider à traverser les épreuves. Cela n'exclut pas le sérieux, la tristesse, et la compassion dans l'accompagnement de ceux qui traversent certaines épreuves, mais malgré tout avec la perspective bienfaisante du royaume à venir. Et cela me fait penser aux apôtres Paul et Silas, en acte 16, verset 25, qui chantaient des cantiques alors qu'ils étaient en prison, dans les prisons romaines. Ils avaient avec eux cette vision de la perspective du royaume qui pouvait les conduire à chanter même en prison. Je ne sais pas si moi je me retrouvais en prison, je serais très, très joyeux, très heureux. Mais bon, Paul et Silas avaient cette joie dans le cœur qui leur permettait, bon, ils avaient aussi le sérieux qui leur permettait de prier et d'entretenir la relation avec Dieu, mais ils avaient aussi cette joie qui leur permettait d'exprimer leur relation avec Jésus. Que Dieu nous aide à vivre notre vie chrétienne avec cette merveilleuse et joyeuse perspective du royaume. Que nous puissions aborder cette reprise de septembre également avec cette perspective bienfaisante du royaume. Et je vous invite à la prière et ensuite nous chanterons un cantique qui glorifie Christ Christ est roi, Christ est roi. Donc les musiciens peuvent se préparer. Prions. Seigneur, on veut te dire un grand merci pour ce psaume, pour ta parole qui est d'une richesse inouïe. Et nous sommes interpellés nous-mêmes dans notre vie, enfin moi en tout cas, par cette joie qui est transparaît dans ta parole, dans la perspective du royaume. Et Seigneur, on veut se réjouir de cette perspective. On veut se réjouir parce qu'un jour, nous serons vraiment avec toi dans l'éternité et nous serons dans une éternité joyeuse. Seigneur, que tu sois notre guide, que tu sois notre force, que tu sois notre maître, que tu sois notre boussole dans nos décisions, dans nos réflexions, dans nos comportements. Sois glorifié, Seigneur, par nos vies. Au nom de Jésus. Amen.